France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie von Otter. Je suis née un joli jour de mai, il y a longtemps, à Stockholm, Suède, et je suis chanteuse lyrique.
Bonjour Anne-Sophie von Otter.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder ce temps. Vous chantez actuellement à l'Opéra de Paris, dans Oedipe d'Enesco, mise en scène par Wajdi Mouawad et dirigée par Ingo Metzmacher. Et nous sommes donc ici à l'Opéra Bastille, avec Paris à nos pieds, sous une belle lumière d'automne. Vous êtes sensible à la lumière, vous, la nordique?
J'aime beaucoup la lumière, toujours, mais surtout en automne, ça devient de plus en plus sombre en Suède. Maintenant, la différence entre Paris et Stockholm est 1 heure le soir. À 6 heures, c'est absolument nuit, maintenant. Et ça, c'est un peu triste, toujours. Mais alors, j'aime bien la lumière ici, dans ce studio à la Bastille.
Vous êtes polyglotte, on vient de l'entendre. Vous avez ce don de nous faire partager avec la même intensité une aria baroque, un lied de Mahler, de Schubert, de Schumann, une chanson populaire, de Jean-Philippe Rameau jusqu'à Brad Meldo. Vous semblez chez vous. Vous êtes égérie aussi des grands chefs, alors Kleiber Gardiner, Minkowski Scholti, Levine, j'arrête les rimes, mais Boulez, Abado, I think, et j'en passe. Et sans doute que votre intelligence vous a toujours permis de mettre votre voix au service de la musique, et pas de l'inverse. Alors je disais que vous continuez à apprendre des rôles, parce que Deep, c'est une prise de rôle, hein, ce mérope que vous chantez
oui.
ici.
le rôle est très... C'est 4 minutes sur scène. Je suis la mère adoptive de Deep. Et il me rend compte ce qu'il a entendu, ce qui est terrible, qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Mais heureusement, c'est pas moi la mère, c'est Jocaste. Mais c'est le moment dans l'opéra, après à peu près 40 minutes, où il raconte ça, et ça change un peu, ça change évidemment l'histoire, et c'est une scène assez dramatique, et même si c'est seulement 4 minutes, je suis très contente d'être ici. Paris en septembre, merveilleuse, ma costume est très belle, un peu oiseau avec des plumes. Et Wajdi était très gentil, Ingo Metzmacher très bien, tout va bien.
Et cette musique d'Enesco,
c'est pas rien,
il y a des fulgurances à l'orchestre, il y a des choses qui
sont
impressionnantes.
Oui, il y a beaucoup de Debussy, beaucoup de Richard Strauss dedans, mais aussi des éléments un peu folkloriques et des belles solos pour flûte. Beaucoup pour le chœur. Non, c'est très intéressant. J'ai vu cette œuvre à Salzbourg il y a quelques ans et beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre et il faut le faire souvent.
La première fois, la guerre chasse l'antinome, tu lances le harpon, tu goûtes les montagnes, le jeu des environs. Mais depuis ton retour de Delphes, tu fuis la joie, et
Apprendre des nouveaux rôles, vous en avez l'appétit, c'est quelque chose que vous aimez de...
D'apprendre, oui. Toujours, oui. Je suis une personne restless, ça veut dire I get tired quickly.
Je m'ennuie vite.
Oui, je m'ennuie vite. ça veut dire j'aime beaucoup découvrir la musique nouvelle et d'apprendre des choses pour la voix, regarder comment ça marche pour ma voix, pour mon intellect. Et je suis une personne, quand je fais aller-retour à la maison, par exemple à Paris, j'essaye de jamais faire la même route. Je veux explorer.
Explorer.
Oui, voilà.
Vous aimez les variations en musique aussi, alors
c'est
les
ça,
thèmes variations.
Variation est un leitmotiv de ma vie. Et c'est pour ça, peut-être que ma carrière, ça va avec mon tempérament. Ça veut dire de ne pas être chez moi à Stockholm tout le temps, mais de voyager, de voir des choses, apprendre des choses, mais aussi toujours revenir à Stockholm où j'ai mes racines.
Vous évoquez l'importance du voyage, évidemment, pour aller chanter, pour aller faire de la musique, mais l'importance des lumières, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que les autres arts aussi, l'architecture, la peinture, tout ça inspire, nourrit aussi votre manière de chanter, d'évoluer, de chercher des couleurs?
Oui. Je dirais que l'architecture me intéresse comme forme. Je regarde beaucoup les maisons, les bâtiments que je passe, mais encore plus la nature. La nature me donne énormément d'inspiration instinctive, mais d'être à la campagne et entendre les oiseaux et regarder l'eau et les arbres, c'est vraiment une expérience spirituelle pour moi. C'est ça la religion dans ma vie.
Et l'eau aussi, c'est vrai que la Seine passe à Paris. Ça vous rappelle peut-être aussi un peu quelque chose.
Oui, à Stockholm, il y a beaucoup d'eau. Et cette fois, à Paris, j'ai habité dans le 5e, ça veut dire que je passe la Seine tous les jours. Et je passe les îles aussi, île de la Cité, île Saint-Louis. Et ça, c'est très agréable. Parfois, Paris, c'est un peu étroit, beaucoup de voitures partout, beaucoup de personnes, des touristes. Mais le 5e et les îles, on peut respirer.
Nature, est-ce que dans votre enfance, elle était très présente? Parce que je crois que vous avez vécu en ville, vous avez même déménagé dans différentes villes, mais il y avait la nature quand même très présente.
Oui, mes parents ont beaucoup aimé la nature aussi. On a toujours fait des petits projets le week-end. On habitait à Londres pendant mon enfance et chaque dimanche, on a pris la petite sab à la campagne et on a visité des cathédrales et des châteaux en Angleterre. Et on a aussi, depuis que je suis née, on a une maison à la campagne en Suède, une petite ferme. Et tous les étés, on était là du début de juin jusqu'à fin août, avec une petite lac, des forêts, des prés et des vaches quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup... C'était une grande partie de moi. Je suis comme je suis grâce à 16 étés à la campagne, une heure nord de Stockholm.
Vous disiez que vous aviez habité l'Angleterre. Vous avez donc eu très vite plusieurs langues.
Oui, j'étais quatre quand on est déménagé en Allemagne et puis 7 à Londres. Ça veut dire que j'ai appris l'allemand. Et puis l'anglais, évidemment. Et le français est venu beaucoup plus tard. J'ai fait un peu des études français à l'école, mais c'était surtout quand j'avais 18 ans et mes parents m'ont envoyé à Montpellier pour faire des études pendant 6 semaines que j'ai appris un peu. Et puis en Aix-en-Provence, avec la Finta Jardiniera, c'était mon premier travail en France. Ça continue. Et puis, j'ai chanté pas mal de fois en France et aussi chanté en français. Et maintenant, ça marche un peu comme ci, comme ça, mais ça marche quand même.
On dit que cette langue, elle est difficile, le français, avec justement peut-être une difficulté de son ou de consonne, d'accent tonique ou pas. Vous...
Ça dépend qui on est. Dans ma tête, il y a une petite part qui est bien pour les langages. Et c'est pas trop difficile pour moi de copier des accents. J'ai chanté en tchèque, en hongrois, etc. Et j'ai cette chip qui peut écouter et puis refaire ça. Ça dépend qui on est. C'est une question beaucoup de questions d'un don spécifique.
No sun, no moon, no sun, no new, 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 no sun, en balade avec vos parents. Il y a qui dans la voiture, Sab?
Des frères et sœurs. J'ai une sœur et deux frères, mais ils sont nés avant, bien avant moi. Il y a 10 ans entre moi et le frère qui est le plus proche que moi, et 16 ans entre moi et ma sœur. C'est-à-dire, ils ne habitaient pas à Londres. Ils étaient déjà adultes ou en Suède. Moi, j'étais la seule avec mon père et ma mère et un cochon d'Inde que j'ai adoré, qui s'appelait Peggy. C'était ma copine. Non, mais c'était une enfance très heureuse. Les années entre 7 ans et 12 ans, je me sentais très bien en Angleterre et j'imaginais que peut-être je allais rester en Angleterre. Mes parents aussi. Londres et l'Angleterre à cette époque, les années 60, étaient très, très agréables. Les gens étaient polis et chaleureux et tout était bien. Ça a beaucoup changé.
C'était les Beatles?
Oui, les années pop culture. Mary Quant et Beatles et toutes les bandes de pop. Le programme que j'ai jamais raté à la télévision était Top of the Pops, chaque jeudi à 19h30, je crois.
C'était le métier de votre père qui vous emmenait comme ça à Bonn, à Londres, à Stockholm, qui vous faisait voyager?
Oui, il était diplomate depuis toujours, mais ma sœur et mes frères ont eu la même expérience. Ils habitaient à New York, à Bruxelles, à Helsinki, à Budapest. Ma sœur est née à Budapest, par exemple.
Ah oui, incroyable. Et votre mère, elle a aimé voyager?
Non, non. Non, elle n'aimait pas voyager peut-être, mais elle n'aimait pas d'être la femme d'un diplomate, parce qu'il faut toujours arranger des dîners, des cocktails. C'est fatigant. Si on adore pas cette vie, très sociale, très de parler de je ne sais pas quel temps il fait aujourd'hui, très superficial. Elle n'a pas aimé. Elle aurait préféré d'avoir une profession, une propre profession. Et quand elle avait 60 ans, elle a fait son baccalauréat. Et après, elle a fait des études sociopolitiques et anglais. Et voilà, c'est ça qu'elle avait aimé
faire. Ah oui, c'est très courageux.
Oui, mais un peu tard, parce que seulement 10 ans après, elle avait développé Alzheimer. Très triste. Et je suis née quand elle avait 43 ans. Ça veut dire que j'étais à peine adulte quand elle était malade. Et c'était vraiment très triste de voir ça. Au début, on n'a rien compris parce que Alzheimer n'était pas très connu à l'époque. Et mon père était très, très anxieux. Et nous avons cru qu'il y avait que c'était seulement lui qui était impatiente avec elle, mais c'était la vérité, elle était malade, très triste.
Et votre père, lui, est resté en forme?
Oui, quelques années, oui, il était en forme, mais il était toujours fatigué parce qu'il était si anxieux pour ma mère. Il a pris des petites vacances pour respirer. Il est mort à Zurich parce qu'il avait un heart failure dans l'aéroport de Zurich. Pauvre mon père.
France Musique, les grands entretiens d'Anne-Sophie von Otter.
Votre père, il était né en 1907.
Oui.
Donc c'est aussi une...
Ça fait très longtemps maintenant. Oui. Une autre façon de penser. Et, la famille était une famille de militaires naval.
Oui, dans la marine.
Oui, voilà. Comme ça, il était très strict, assez réservé et... pas facile. Avec moi, il était quand même très gentil, mais pour mes frères et sœurs, il était pas un père chaleureux.
Et vous, vous étiez la petite dernière.
Oui. Merci pour ça.
Et votre père, pour terminer quand même, parce que c'est quand même important, votre père, du coup, était en pleine fonction pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Il était positionné à Berlin et il était à Varsovie pour parler avec quelques Suédois qui ont été captivés. Et sur le train, sur le retour à Berlin, c'est difficile d'expliquer ça en français, un train de nuit, il a été approché par un monsieur allemand, avec son costume SS, nazi, et il était très nerveux, ce monsieur, il a voulu parler à mon père, ils ont parlé toute la nuit, et c'était Kurt Gerstein, le SS officier qui était... il faut que vous m'aidiez un peu là.
Qui était chargé d'acheminer le gaz?
Oui.
Dans les chambres à gaz.
Et oui, il a voulu rencontrer tout ça. Il avait vu ça et il était choqué et terrifié. Il a voulu que mon père, comme il était de la Suède,
raconte.
Raconte ça, oui, voilà, la ministère, et que ça se devenait connu par tout le monde et que on pouvait le arrêter. Mais mon père, il a raconté à la ministre de Foreign Affairs, mais ça n'a pas aidé.
Vous avez fait aussi un très beau disque des chants de Térésine.
Oui. Oui, on m'a demandé de chanter quelques mélodies dans une conférence à Stockholm en 2000 de Holocaust. Mm-hmm. Il y avait une personne qui m'a dit, tu sais qu'il y a une énorme compilation de musique de Térésine, Theresienstadt. Je savais pas du tout, mais j'ai commencé de regarder ça et j'ai chanté quelque chose. Le Vigal a une berceuse. Mais après, j'ai pensé que on devait faire un disque avec cette musique de Térésine, justement parce que le compositeur là était très 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 bon, très formidable compositeur comme Pavel Haas et Victor Ullmann et aussi, Ilse Weber qui a écrit plutôt les petites chansons des berceuses ou elle a écrit poésie et elle a fait musique très simple pour chanter ce poésie, mais très très touchante, pas du tout highbrow, pas intellectuel dans le mauvais sens. Et ce disque, je suis très fière de ça. Et on a parlé un peu de mon père et son rencontre avec Gerstein et c'était un peu un hommage à mon père parce qu'il a souffert beaucoup que il n'a pas pu faire plus pour Gerstein ou dans ce question. C'était dur pour lui de vivre avec ça.
C'est quelque chose dont il vous parlait? À vous,
enfant. Non, non. Mon père était très, comme on a dit, il est né 1907, il était d'un autre type de personne qu'aujourd'hui. Il n'était pas moderne. Donc, il n'a pas parlé de ses sentiments. Presque jamais.
Vigala, Vigala, Bayer, der Wind spielt auf der Leier, er spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vigala, Vigala, Bayer, der Wind spielt auf der Leier. Vigala Berne, der Mond ist die Laterne, er steht am dunklen Himmelszelt und schaut hernieder auf die Welt. Vigala, Vigala Berne, der Mond ist die Laterne.
C'est sur cette mélodie d'Ilse Weber par Anne-Sophie Fonauteur et Bébé Risenfors que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec la mezzo-soprano suédoise. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Stéphane Beaufils, mixage Claude Nior, attaché de production Marie-Christine Ferdinand et Alice Escrion. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et sur l'appli Radio France. Kindchen, schlaf auch du.
À réécouter sur francemusique.fr.